Alors, vous savez, aller jusqu'à lundi dernier, lundi soir même, je dirais, je travaillais sur un message. Et tout à coup, tout a été bouleversé. J'ai décidé de changer totalement de thème. Et j'ai décidé de m'attaquer à un sujet que j'ai intitulé « Du rire aux larmes ». Vous doutez pourquoi, sans doute, est arrivée la fameuse nouvelle à l'effet que Robin Williams était décédé et s'était suicidé. Et moi, depuis que je suis tout jeune, depuis Mork and Mindy et ainsi de suite, je connaissais cet acteur-là, bien entendu. Mais ce qui m'a vraiment décidé à étudier ce sujet-là plus en profondeur, c'est que mardi matin, à TVA, la chef d'antenne de TVA Sport, qui s'appelle Karine Champagne, est intervenue parce qu'elle s'occupe de groupes, entre autres, qui sont en proie avec des gros problèmes comme la dépression, burn-out, et ainsi de suite. Et elle avait dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit, pratiquement tellement elle était perturbée. Perturbée par quoi? Par l'impact que ça aurait, ce suicide-là. Parce que c'est la personne qui s'est suicidée, qui est décédée, c'est quelqu'un qui était adulé. C'est quelqu'un qui était, elle dit, oscarisé, qui a gagné des Oscars, et c'est quelqu'un qui était riche à craquer. Alors, si une personne comme ça se suicide à cause qu'elle est en dépression profonde et qu'elle a d'autres problèmes associés à ça, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les gens qui vivent la même situation, mais qui n'ont pas connu tout ce que lui a connu en termes de richesse? Et elle, ça lui disait, ça risque d'avoir un impact incroyable autour. Et là, elle lançait un message justement en disant « Attention, attention, ne vous laissez pas entraîner par ce qui vient d'arriver. Il y a une solution. Le suicide, ce n'est pas la solution. » Donc, j'ai sorti les livres, des notes et je me suis mis à fouiller dans tout ça pour réaliser que c'était tout un travail. Et vous savez, ce matin, je n'ai pas du tout l'intention de faire une étude approfondie. Je n'ai surtout pas l'intention de commencer à essayer de tout définir et expliquer qu'est-ce que c'est que peut être une déprime, une dépression, un burn-out, une tristesse, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça mon but du tout. Mon but, dans le fond, c'est tout simplement que lorsqu'on va regarder dans la parole de Dieu, on va voir que Dieu n'est pas insensible à cette problématique qui touche tellement, tellement de personnes, mais qui a aussi de l'espoir pour ceux qui en souffrent, mais en regardant dans la parole de Dieu. Je dois vous faire tout de suite une mise en garde en même temps, ou un avertissement. On va traiter ça de façon très succincte. Et je suis très, très conscient qu'il peut y avoir de nombreuses causes à la dépression, au découragement, et ainsi de suite. Il peut y avoir des causes tant physiques, psychologiques, et même chimique. Quand on commence à travailler au niveau du cerveau, des neurotransmetteurs, de la sérotonine, et mettez tout ça, il peut y avoir un paquet de causes. Donc, ce matin, il ne s'agit pas de faire le tour de tout ça, mais de comprendre et de voir ensemble qu'il y a quelque chose qui risque tous de nous arriver. J'ai mis un escalier. Pourquoi? Parce qu'on peut descendre un escalier. Et, dépendamment de qui on est ce matin, et en pensant à ce message-là, savez-vous à qui j'ai pensé? Un peu à vous autres, ici dans la salle, mais beaucoup à ceux qui ne sont pas ici et qui vont écouter ce message-là grâce à Internet, en pensant à ces personnes-là qui peut-être vivent des situations difficiles aussi, mais qui ne sont pas ici. Et peut-être que dans le fond, vous pouvez être dans le haut de l'escalier. Tout va bien. Bien, dans la vie, il va vous arriver des étapes où peut-être le découragement va vous atteindre. Et ce découragement-là peut aller très profond. Donc, moi, ce matin, tout ce que je veux faire, c'est regarder un peu vraiment, globalement, de ce qui en est du découragement. Indépendamment où on peut être situé, mais tout en réalisant qu'on peut être un petit peu découragé parce que la semaine dernière, j'étais en vacances puis il n'a pas fait beau. Ou encore, ça me déprime la température. Ça, c'est une forme. Mais on peut être très, très, très bas au point de penser à se suicider. Voyez-vous, toute l'échelle, la gradation qu'il peut y avoir. Et quand on veut parler du découragement, ce n'est pas un terme qui est facile à définir. Jeff Olson, qui est un psychologue qui écrit beaucoup de livres, un psychologue chrétien, il dit dans un petit livret qui s'intitule « On a perdu l'espoir », il dit « La dépression est un état de trouble affectif, ou d'esprit, qui comporte plusieurs dérangements continuels dans l'énergie, le sommeil, l'appétit et la capacité de se concentrer. » Ça a un impact. Le découragement a un impact qui peut être plus ou moins grand selon la situation où on en est rendu dans cet escalier. Et ça a un impact sur notre force et notre volonté. Karine Champagne, mardi matin, a comparé, parce qu'elle l'a vécu à plusieurs reprises, la dépression à un crabe qui ronge l'âme. Tellement que ça peut faire mal. Tellement qu'on n'a plus le contrôle et qu'on est dépassé par tout ce qui arrive. Maintenant, qui peut en être atteint du découragement? Ah, quelqu'un qui est en haut, lui dit « Non, moi, ça va très, très bien, peut-être. » Mais tous peuvent être atteints d'une période de découragement. J'ai sorti un exemple ici. Vous connaissez cet homme? C'est Edwin Aldrin, un astronaute. C'est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Pensez à ça. Tout ce que cet homme-là a dû faire, accomplir, pour se rendre jusqu'à aller marcher sur la Lune. Et pas longtemps après, il a fait des dépressions à répétition. Celui-là, Winston Churchill, un homme d'État, bon, qui n'est pas de ma génération, début de ma génération, on pourrait dire, qui lui aussi a fait tellement comme homme d'État, mais qui a vécu de très grandes dépressions. Et un de ceux que depuis dans les dernières semaines, parce que je lis un livre sur sa biographie, m'a bouleversé. Vous connaissez cet homme? Charles Spurgeon. On l'appelle le prince des prédicateurs. Tellement il a bouleversé l'Angleterre par ses prédications, puis des milliers d'âmes sont venues au Seigneur. Mais cet homme-là a lutté fréquemment avec de très, très graves dépressions. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, des hommes comme Moïse, David, Job et ainsi de suite, tous des hommes qui ont laissé une marque incroyable dans la parole de Dieu, mais qui ont eu des grands moments de découragement. Et ce matin, j'aimerais regarder un épisode de la vie d'un de ces hommes, Élie, ce prophète de Dieu. En regardant avec vous un épisode de sa vie où cet homme-là là, a vécu et a fait des choses incroyables pour Dieu, où on pourrait dire, à quelque part, il y a eu une période vraiment d'exaltation à cause de toutes ses victoires. Il était vraiment au sommet, au top de la montagne. Mais par la suite, il a pris une débâcle. Oui, parce que il a été au sommet de la montagne, cet homme-là, ce prophète-là. Il s'est vu confier des missions que pas grands hommes auraient acceptées. Vous savez, en Israël, à l'époque, il y avait le culte de Baal, qui était une religion d'État, et le peuple d'Israël, on l'a vu même, on en a parlé ce matin, qui avait abandonné Dieu, qui s'est tourné même vers les Baals, une religion dans laquelle il y avait des gestes immoraux incroyables qui se faisaient, des actes très cruels aussi, et tout ça qui avait un effet très, très, je dirais, néfaste sur le peuple de Dieu. Un roi, le roi Achab, qui était d'une cruauté incroyable, et sa femme, la célèbre Jézabel, aussi. Et voilà que ce prophète-là, Élie, est appelé à aller rencontrer Achab pour lui dire des choses qui ne lui feront pas plaisir. Aller dire à Achab qu'à cause de son comportement, il va y avoir une sécheresse incroyable qui va s'abattre pendant des années. Ça prend du courage pour faire ça. Élie l'a fait. Dieu s'est servi de lui. Imaginez comment ça devait être impressionnant quand il est sorti de là. Il part de là et Dieu l'envoie pendant un certain temps sur le bord d'un torrent où là, des corbeaux vont le nourrir. Avez-vous déjà vu ça, vous, des corbeaux venir vous nourrir? Moi, les fois que j'ai vu des corneilles, ils partaient avec ma nourriture. Peut-être qu'elle allait l'apporter à quelqu'un, je ne sais pas. Mais imaginez l'expérience qu'Élie a vécue, être nourri par des corbeaux. Par la suite, Dieu va l'envoyer voir une veuve à Sarepta. Parce que la famine est là, manque de nourriture, et lui va lui demander de se faire nourrir par cette veuve-là qui n'a rien. et Dieu va opérer un miracle. Il va permettre que l'huile et que la farine ne manquent pas et que Élie puisse manger, que la veuve puisse manger, même que son fils. Incroyable! Imaginez l'expérience, comment ça devait être trillant. Mais cette pauvre veuve-là, voilà que son fils meurt. Élie va se couvrir et ce fils-là va revenir à la vie. Si ça s'arrêtait là, les expériences d'Élie qui sont incroyables, mais non! Dieu va lui demander de retourner voir Akab. Et là, il va convoquer sur le mont Carmel, trompez-vous pas, c'est pas celui qui est ici. Si c'était ici, on serait nombreux à aller voir. Il va convoquer le peuple et les 450 prophètes de Baal afin de voir qui est le Dieu qui doit être honoré en Israël. Est-ce que c'est Baal ou est-ce que c'est l'éternel Dieu de la parole de Dieu? Et là, lui seul va être là sur le mont Carmel. Et là, les prophètes vont faire un autel, vont mettre dessus un animal. Et là, ils vont faire des imprécations, ils vont prier Baal jusqu'à l'heure du dîner, jusqu'à midi. Et là, même à midi, Élie se moque d'eux en lui disant, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, mais il ne se passe rien. Votre offrande est là sur l'autel et il ne se passe rien. » Comme ça devait être traumatisant. Et lui, Élie, implore le grand Dieu. Et lorsque il fait ça, le feu descend du ciel. L'offrande est consumée. Le bois est consumé. La pierre est consumée. Et toute l'eau qui avait servi pour arroser ça, pour être sûr que ça ne parte pas tout seul, et plus rien. Wow! Sur le top de la montagne, Élie est là, voit tout ça. Et par la suite, ces prophètes-là même sont mis à mort. Dieu a utilisé cet homme-là d'une façon incroyable. Mais lisons, si vous voulez bien, à partir du chapitre 9, dans le premier livre des Rois maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver par la suite? Tournez avec moi dans le chapitre 9 du premier livre des Rois. On y lit. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, oui, j'ai dit un roi, chapitre 19. Un roi, chapitre 19. Je m'excuse, c'est pas ça que j'ai dit? J'ai dit deux rois? 9, 19? Est-ce que tout le monde est rendu à un roi, chapitre 19? Avez-vous quand même écouté ce que j'ai dit? OK, on part du verset 4 d'abord. Donc, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'Éternel, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, ou si vous préférez le mont Sinaï. Et là, il entra dans une caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. « Je suis resté moi seul. » Il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. » Jusque-là. Élie a goûté à être au top. Mais voilà que maintenant, après avoir goûté à quelque chose d'aussi merveilleux au sommet de la montagne, ben il va prendre une débarque au point d'être maintenant au creux de la vallée. J'ai lu tout à l'heure au verset 4, « Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. » Pensez-y un instant. Après avoir connu une pareille exaltation, il en vient un pareil découragement, aller jusqu'à demander la mort. Mais c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui se passe pour qu'Élie en soit venu à ça? La menace d'une femme? Jézabel? Ben voyons donc. Alors c'est sûr que cette femme-là, elle lui a envoyé un messager, puis elle lui a donné tout un message. « Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, que Dieu me juge. » Terrible de recevoir un télégramme comme ça. Mais c'est quoi la réaction? Comment ça se fait qu'il lit? C'est pas dit, attends un peu, ma petite fille, toi là, là, avec tout ce que j'ai vécu avant, je vais te montrer bon, comment ça se gère, ça. Aller combattre? Non. Il aurait pu encaisser le coup et dire, bon, on va la laisser faire, elle là, elle est mêlée. Mais non. Il se sauve, il prend la fuite. Verset 3 dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beer-Sheba. Il fait plus d'une centaine de kilomètres, alors qu'il est en panique à cause du message qu'il a eu, dans le désert et sous le soleil. Mais la question à se poser, c'est, mais qu'est-ce qui est arrivé à Élie? Et quelle leçon je peux en tirer, moi, ce matin, pour voir qu'est-ce qui a pu faire qui amène un pareil découragement? Et y a-t-il un moyen de s'en sortir? Parce qu'il faut penser qu'Élie, la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, quoi? Qu'Élie était un homme comme nous, comme vous, comme moi, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences, dans la traduction de la parole vivante. Élie avait des sentiments, vivait des expériences. Oh, vous ne vivez peut-être pas les mêmes expériences qu'Élie, mais ce n'est pas grave, vous en vivez ou vous allez en vivre. Et vous êtes susceptible, comme Élie aussi, de vivre une période plus dure. Donc, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, tôt ou tard, vous pouvez vous ramasser dans une situation où vous pensez qu'il pleut, mais qu'il pleut toujours sur vous alors qu'il fait soleil chez les autres. Pour toutes sortes de raisons, toutes sortes d'épreuves qui peuvent vous arriver dans votre vie. Et là, vous faites face à cette situation-là. Et là, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est de se croire trop fort pour en être atteint. Hey, voyons donc. Moi, je suis bien trop spirituel. Les autres, c'est des faibles. Pensez à ceux que je vous ai nommés tout à l'heure. Élie, Moïse, David, Spurgeon. On pourrait en mettre, puis en mettre. Donc, de se penser trop fort pour en être atteint, c'est un danger. Mais le deuxième danger, c'est de se croire trop faible pour en sortir. En se disant, oui, eux autres ont été capables. Oui, ça a fonctionné pour eux autres. Mais moi, là, c'est pas possible. Moi, c'est pas pareil. Non. Les leçons qu'on peut tirer de ce que Élie a vécu, bien, peuvent s'appliquer à nous aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des facteurs prédisposants au découragement. Des facteurs, non pas des symptômes, on va les voir un peu après, mais des facteurs. Et dans le cas d'Élie, j'en ai relevé, on en relève à peu près 4, il peut en avoir d'autres. Mais le premier facteur, là, vraiment, qui peut être prédisposant, on l'a appelé le surmenage. Imaginez tout ce que Élie a pu vivre dans toutes ces situations qu'il a dû vivre, le stress qu'il a dû avoir. Imaginez physiquement aussi tout ce que ça a pu lui exiger. C'est terrible. Et tout ça a dû certainement avoir un impact physique et émotionnel sur lui. Donc, le surmenage peut être un facteur qui l'a amené à une période de découragement et qui peut vous amener et m'amener à une période de découragement, qu'on soit étudiant, au travail, sur le chômage, n'importe quoi. On peut être aussi surmené. Un deuxième facteur, la solitude. Élie était, quand on regarde dans les chapitres avant, était toujours accompagné avec un serviteur. Et là, voilà qu'au verset 3, il dit, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Élie se ramasse tout fin, seul. Plus de serviteur pour l'accompagner, pas de serviteur pour l'aider, et ainsi de suite, tout seul. Et là, il s'isole de plus en plus. Et plus il est découragé, plus il s'isole. Plus il s'isole, plus il est découragé, on pourrait dire. J'ai oublié totalement hier, j'avais un beau petit dessin qui parle du cercle vicieux de la dépression, qui montre à quel point, justement, la fatigue, l'épuisement nous amène à avoir de la difficulté à agir, un repli sur soi, la culpabilité, l'auto-dévaluation, et ainsi de suite. Et ça, ça peut être un cercle qui est vicieux, qu'il faut casser. Donc, la solitude en est un facteur qui peut être très dangereux. Et vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 4, 9 et 10, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans en avoir un second pour le relever. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul dès la création, en partant. Donc la solitude peut être un des facteurs aussi qui va contribuer à nous amener à être découragés. Un troisième, l'effet de surprise. C'est bizarre à dire peut-être, mais pensez un peu. Pensez-vous qu'Élie, après avoir été sur le Mont Carmel, il s'attendait à ce qu'un petit message viendrait le jeter à terre comme ça? Il s'attendait peut-être que, regarde, là, tout est réglé, les prophètes sont réglés, tout le monde maintenant va se tourner vers le Dieu d'Israël. Ben non, voilà que Jézabel y envoie un message et ça le surprend. Et ça le surprend tellement que malgré cette grande victoire, il plante. J'ai entendu cette semaine un artiste, je ne me souviens même plus, excusez-moi, de l'émission, qui comptait qu'il avait travaillé fort, puis à un moment donné, il est arrivé à un gala, je pense que c'est le gala artiste, ça s'appelle, si je me souviens bien en tout cas, et là, il a été récompensé pour tout ce qu'il avait fait. Et ça l'a tellement saisi, il était tellement heureux, mais savez-vous qu'est-ce qui est arrivé pas longtemps après? Un burn-out, il dit, j'ai fait un très gros burn-out. Il ne s'attendait vraiment pas à ça alors qu'il était au top. Donc, c'est ce qui fait qu'à quelque part, ce qui importe, ce n'est pas tout le temps l'intensité de l'épreuve, mais c'est le moment où ça arrive dans notre vie. Un quatrième facteur, pour Élie, le sentiment d'injustice. C'est pas juste. Vous avez déjà entendu des enfants dire ça? Moi, je me souviens, en tout cas. Quand je me souviens... T'as pas prévu, là, mais c'est un flash qui vient de me venir. Vous savez, quand vous avez des enfants, là, puis c'est le temps d'aller se coucher, il dit, un enfant te dit, « Ouais, mais papa, il va pas se coucher, lui. » On s'entend-tu? C'est pas juste, papa, il va pas se coucher. Avez-vous déjà entendu ça? Ou lui, sentiment d'injustice. Ben, il lit ici, lui, là, imaginez à quel point, avec tout ce qu'il a vécu, il en a eu plein son casse. Il va dire au verset 4, « C'est assez. » J'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. J'ai tout fait ça, puis regarde, donc j'en veux. Je suis plus capable. C'est pas juste qu'il m'arrive là, voyons donc. Il a été obéissant, Élie, depuis le début. Puis là, ça y arrive, mais c'est pas juste, Seigneur, voyons donc, c'est assez. C'est ce qu'il dit. Un autre facteur, les sentiments d'injustice. Et quand on prend ça, il y en a d'autres, bien, ça nous amène après ça à développer ce qu'on appelle des symptômes. Les symptômes classiques. Je sais que si vous allez voir un médecin, un psychologue, tout ça, il y en a comme une dizaine, je pense, là, de symptômes types qui peuvent aller jusqu'à justement se faire une idée de comment je vais me suicider. Ça peut aller aussi loin que ça. Ça fait partie des symptômes potentiels. Mais dans les symptômes classiques, je dirais qu'on retrouve, si vous avez le moindrement vécu une situation de découragement, de burn-out, de dépression, la première, je dirais, c'est l'épuisement. On devient vidé, fatigué physiquement, plus capable quasiment de manger comme Élie, il ne mangeait même plus. Se lever, c'est pénible. S'habiller, c'est pas faisable. Karine Champagne disait, se laver les dents, c'est une montagne. On est vidé physiquement et émotionnellement. Donc, c'est un des symptômes quand on devient à ce point-là épuisé. Un deuxième symptôme, le manque d'objectivité. C'est quoi? C'est d'avoir une vision déformée de la réalité. Élie dit au verset 4, « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Voyons donc, ma vie, c'était un échec. Hé, Élie, regarde tout ce que tu as accompli, mais il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça, Élie, du tout, du tout. Il va dire, « Je suis resté moi seul à deux reprises. » Il n'est pas resté seul, on le voit dans le texte un peu plus loin. Il a dit qu'il y a 6000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Il n'est pas tout seul. Il manque d'objectivité. Les Israélites, va dire au verset 14, cherchent à m'ôter la vie. Voyons donc, ce n'est pas toutes les Israélites qui voulaient y enlever la vie. C'est Jézabel. C'est pas tout le monde, mais lui, là, c'est tout ça ensemble. Donc, il perd toute objectivité. Et quand on est dans une période de découragement, effectivement, ça nous arrive aussi. On voit tout comme des montagnes insurmontables. Des fois, mon épouse, pour me taquiner, quand je me ramasse devant des situations avec lesquelles je ne sais pas trop comment y faire face, elle va dire quelque chose du genre, comment elle dit ça? Il faut que ça me revienne. Où est-ce donc, Suzanne? Tu vois trop des problèmes et pas assez des solutions. Ou encore, il y a un lion dehors. Celle-là fait mal, par exemple. Il y a un lion dehors, tu sais. T'as peur de l'affronter, hein? Non, mais voyez-vous, il y a un philosophe qui s'appelle Épictète qui a dit, « Les hommes sont agités non par les événements, mais par leur perception des événements. » Parce que leur perception, elle est déformée. Et quand on est dans une période de découragement comme ça, notre perception, elle est déformée. Et quand on est chrétien, bien en plus, non pas quand on est chrétien, mais le troisième facteur, pardon, qui touche aussi bien les chrétiens, c'est l'apitoiement. Il va dire, écoutez bien les « je suis pas meilleur, j'ai déployé mon zèle, je suis resté moi seul à trois reprises. » Élie ne fait que tout tourner vers ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et ça vient un danger parce que ça en vient à l'envoûter et ça peut venir à m'envoûter ou à vous envoûter. Parce que ça déforme nos pensées puis ça tord notre vision de nous-mêmes. Puis ça peut même tordre notre vision des autres et même de Dieu. L'apitoiement. Et ça, c'est dur. Mais c'est un des symptômes. C'est pas la fin du monde, mais c'est un symptôme. Il faut savoir le reconnaître. Et quand on partage une expérience comme ça avec quelqu'un qui le vit, il ne faut pas se surprendre de ça. L'apitoiement est présent pratiquement toujours. Un quatrième symptôme, la perte de vue de la personne de Dieu. Maurice Descœurs, dans son livre qui s'appelle « Le découragement », justement, il appelle ça le décrochage du regard. Alors que là, on porte les regards uniquement sur les circonstances, tout ce qui nous arrive, et on délaisse de regarder vers le Seigneur. Et c'est pour ça qu'au verset 3, il dit bien, « Élie, voyant cela, ce qui lui arrivait, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. » La perte de vue de la personne de Dieu parce qu'on se tourne trop vers les circonstances. Et là, on peut perdre de vue que Dieu nous aime, que Dieu est là pour prendre soin de nous qui nous entoure. Et on peut venir même à déformer son caractère en pensant qu'il ne nous aime plus et même qu'il nous a abandonnés. Et ça, c'est dur. Parce que tu en viens à penser que ton propre Père céleste est en train de te laisser tomber. Parce que justement, tu perds de vue qui il est vraiment. Mais vous savez quoi? Il y a des remèdes au découragement. Et c'est ça qui est tellement merveilleux avec la parole de Dieu qui nous montre justement dans l'exemple d'Élie qu'il y en a des remèdes. Mais ces remèdes-là, dans le fond, je dirais, se divisent en trois grandes catégories. Ma responsabilité que j'ai, celle de Dieu puis celle des autres, je dirais dans mes mots. Parce que j'ai quand même moi-même une responsabilité. Laquelle? Ben, c'est dans un premier temps de prendre soin de ma santé. Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Il nous a donné de besoins qui sont vraiment légitimes. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps nécessaire. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il dormait. Et là, au verset 5, au verset 7, l'ange le toucha, lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie se réveille et à côté de lui, il y a de la bouffe à manger. Le chef cuisinier est rendu là. Pensez à ça, là. Il était tellement fatigué qu'il ne mangeait même plus. Et là, Dieu va prendre soin de lui physiquement, lui disant, « Mange. » Martin Luther, qui est un grand théologien du 16e siècle, c'est lui qui a traduit entre autres la Bible en allemand. Souvent, il disait à des gens qui travaillaient avec lui aussi, il lui disait, « Repose-toi. On sert Dieu aussi par le repos. » Il n'y a pas de honte à se reposer. Et quand on est en train de descendre la pente comme ça, c'est normal, quand on est vidé, de devoir prendre soin de nous physiquement. Et vous vous souvenez ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples à un moment donné? Il dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. » Le Seigneur Jésus a eu besoin de se reposer parce qu'il était parfaitement homme. Donc, pourquoi pas nous? Le deuxième, maintenant, qui est dans mes responsabilités, je ne vous cacherai pas, qui est un petit peu plus difficile. Parce que, imaginez Élie à quel point, quand ça lui est arrivé, il y a eu un paquet de réflexions et d'interrogations. Combien de fois Élie a pu penser au message de Jézabel en sauvant, en ruminant, parce que c'est ça le danger, c'est « je rumine ». Et là, mes pensées, là, tout ce qu'ils font, ils tournent. Et souvent, le mécanisme qui mène au découragement, bien, il commence avec les pensées. C'est donc le travail qui se fait dans les pensées. Donc, si ça commence souvent par ça, bien, le combat, il doit être mené à ce niveau-là aussi. Et ça, c'est dur, de discipliner ses pensées. D'être capable de dire à un moment donné, je pense comme ça, là, je fais des efforts pour lâcher ma façon de penser comme ça et je m'en vais penser maintenant de cette manière-là. C'est difficile, c'est certain, mais c'est possible. Est-ce que c'est toujours facile? La réponse, c'est non. Et vous savez, Proverbe 23:10 dans la version Darby dit ceci, « Comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Comme il a pensé dans son âme, tel il est. Donc, dans le fond, ça nous montre qu'on est façonné en bonne partie par ce que l'on pense. Et il faut être capable de les discipliner. Quelqu'un a dit un jour, je me souviens, je ne sais pas qui, on ne peut empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes. Les pensées y arrivent, comme ça. Mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. En cultivant, en ruminant toujours, c'est quelque chose qui vient... qui permet quasiment à cet oiseau noir-là de faire son nid dans ma tête. Donc, faisons attention, mais réalisons que c'est pas... Je suis très conscient que c'est pas facile, ce que je dis là, mais ça fait partie d'une responsabilité qu'on a lorsqu'on est découragé d'être capable de détourner nos pensées pour les envoyer beaucoup plus vers le haut et non pas vers ce qui nous entoure. Ronald Dunn... C'est un pasteur qui a lutté des années contre une profonde dépression suite au suicide de son fils. Il a écrit ceci. Il dit, « Je prends la décision délibérée de tourner mes pensées dans une autre direction, vers le chemin de la louange et de l'action de grâce. » Mais regardez bien la suite. « Parfois j'y arrive, parfois j'échoue. » C'est ça la réalité. Mais ce qui compte, c'est que même lorsqu'on échoue, qu'on puisse continuer et qu'on puisse persévérer. Il y a un proverbe chinois qui dit sept fois à terre et huit fois debout. Donc, ça, c'est une responsabilité que j'ai. Même si j'ai des défaites lorsque j'essaie de discipliner mes pensées, lorsque j'essaie de sortir de ce cercle vicieux-là, de ruminer, je persévère malgré ça. En pensant aux choses qui sont beaucoup plus honorables, comme nous dit la parole. Ma troisième responsabilité, en parler. Vous savez, lorsqu'on parle de découragement, de burn-out, de dépression, il y a comme un malaise qui peut y avoir. et dans le monde chrétien encore plus que dans le monde séculier. Mais c'est un domaine, le découragement, qui est tellement vaste, comme j'ai dit au début, qu'il peut y avoir tellement de causes que souvent, lorsque quand on va voir quelqu'un comme ça, on va dire « Ouh, il n'est pas spirituel. » Ou encore, voyons, donc, il connaît Dieu, c'est pas normal. Et entre chrétiens, on peut avoir cette attitude-là aussi. Donc, on n'a pas à avoir honte de ça. Dans les années 2000, au début des années 2000, à peu près, j'avais un travail de gestionnaire et j'avais des gros problèmes avec certains employés, des conflits entre employés en plus. C'était terrible et en plus d'autres responsabilités que j'avais. Et je pensais tout le temps à ça. Et quand j'arrivais au travail le matin, j'avais une boule. J'aurais juste voulu virer de bord. Et là, tranquillement, je me suis mis à ne plus dormir la nuit. Mais pas en panique, j'ai dit « je vais aller ». Mais de moins en moins, je dormais. De plus en plus, j'angoissais. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai été voir un médecin. Qui m'a dit, là, ça ne marche pas ton affaire, tu es en train de planter. Ah, tu n'es pas, peut-être pas dans le bas de l'échelle, là, de l'escalier, mais tu es en train. Donc, il va falloir que tu changes ton rythme de vie. Et, en attendant, je vais te donner des petites pilules. Hey, un chrétien prend des pilules, voyons donc. Hey, je ne connais pas. Le Seigneur avait permis que je vis dans le passé des situations qui ont permis que je vois que dans certains cas, c'est nécessaire. Puis c'est pas honteux. OK? C'est pas honteux. Et en parler, ça peut aller aussi loin que de dire d'avoir besoin d'aide. Il y a des gens qui ont des formations, oui. Il y a des gens qui sont très spirituels aussi puis qui sont capables de comprendre ces choses-là. Il ne faut pas avoir honte d'aller en parler puis de réclamer cette aide-là aux besoins. Et si les personnes qui vous entourent ne sont pas suffisamment qualifiées aux besoins, puis ils voient que ça les dépasse, ils vont vous amener plus loin. Mais gardez, vous savez, tout à l'heure, on a parlé de la solitude, hein, de tout garder ça tout seul, c'est pas la solution. Donc, ça, c'est ma responsabilité. Maintenant, il y en a une deuxième, je disais tout à l'heure, la responsabilité de Dieu, mais c'est l'encouragement qui vient de Dieu. Souvent, lorsqu'on est dans une grosse période de découragement, on a de la misère même à lire la parole de Dieu. Assister aux réunions, et ainsi de suite. Mais je dois toujours me rappeler que l'amour de Dieu, lui, Dieu continue à m'aimer malgré tout ça. Parce que Dieu, lui, son amour, est un amour qui est inconditionnel. Ça, on a de la misère beaucoup avec ça, parce que souvent, on va penser que Dieu va nous aimer plus à cause de nos victoires ou qu'il va nous aimer moins à cause de nos échecs. Dieu n'est pas comme ça. Dieu vous aime, Dieu t'aime. Même si tu es dans une profonde période comme ça, ça ne change rien du tout. Dieu, lui, continue à t'aimer. Mais Élie, souvenez-vous ce qu'il fait. Élie part, il s'en va, il t'en va dans le désert, il s'en va jusqu'au mont Horeb, et là, il rentre où? Dans une caverne. Le Seigneur aurait pu dire, écoute bien, mon petit Élie, là, tu veux faire à ta tête? Bien, débrouille-toi, reste dans ta caverne. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu plein de sollicitude. Et il va dire à deux reprises la fameuse question, « Que fais-tu ici, Élie? » Et là, il va inviter Élie à sortir de sa caverne. « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel » au verset 11. À deux reprises. Élie est dans sa caverne et là, il voit passer un vent incroyable. Il voit voir passer un tremblement de terre, un feu et ainsi de suite. Et l'Éternel, il nous a dit, n'était pas dedans. Et après, qu'est-ce qui sort? C'est un murmure doux et léger. Dieu n'était pas dans les gros éléments qu'il y a là. Et ce qu'Élie avait besoin d'entendre, c'était un murmure doux et léger. Ce n'était pas une critique. Ce n'était pas de se faire planter par Dieu. Mais que Dieu devait le ramener et le faire réfléchir par un murmure qui est doux et léger. Un peu comme s'il disait à Élie, « Hey, écoute-moi donc. Écoute ma voix. Calme-toi. Viens, sors dehors, on va se parler. On va voir, il y a moyen. Je suis là encore pour t'aider, Élie. » Et Élie va sortir de la caverne. Dieu est maître des éléments. Dieu aurait pu faire, comme il a fait là, un peu comme il a fait au Carmel aussi, par des moyens incroyables, mais non. Dieu se sert des paroles, un murmure doux et léger pour s'adresser à son serviteur. Bien, c'est la même chose pour vous et pour moi. Dieu ne veut pas nous condamner, mais Dieu veut nous faire sortir de notre trou noir, parfois dans lequel on est, en continuant vraiment à nous parler. Et Dieu veut nous assurer, dans le fond, de sa présence. On chante un chant à l'occasion, puis j'ai oublié de le demander si on l'avait, c'est qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a pas compassion de toi. » Jamais Dieu va nous abandonner. Dieu nous donne l'assurance de sa présence. Et ça, c'est sûr que c'est par la foi qu'il faut le saisir. Mais c'est une promesse qu'il nous donne. La foi en sa parole aussi. J'ai cette responsabilité-là. C'est pas facile, parfois. Je me souviens, Suzanne me contait des fois que lire quelques versets, c'était difficile. Mais de continuer quand même à lire, de lire des psaumes pour voir qu'on n'est pas seul, que d'autres personnes ont vécu la même chose dans le livre des psaumes, qui ont été capables d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur âme, de répandre tout ça devant Dieu et de s'attendre à cette consolation-là qui va venir d'en haut. Mais pour ça, il faut continuer aussi à avoir foi vraiment à sa parole et à la lire et considérer les réalités invisibles et éternelles. Ce matin, au pas du Seigneur, on a souligné l'importance du retour du Seigneur aussi. L'importance de ce qui va arriver un jour. Mais il faut s'accrocher aussi en même temps aux considérations des réalités qui sont invisibles, mais qui sont éternelles. C'est pour ça qu'il va dire, Paul, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternels. Quand on lit, qu'on s'attache à ces choses-là et qu'on met notre foi, qu'on garde notre foi vraiment, alors là, l'espérance peut renaître. Alors là, ça nous donne des convictions, ça nous donne vraiment une assurance et ça devient un peu comme un ancre, mais qu'on accroche à la bonne place, vraiment sur Dieu. Et la semaine dernière, Jacques nous a parlé aussi, de l'espérance du retour de Jésus-Christ. Vous souvenez-vous, il nous a donné 9 raisons pour lesquelles Jésus doit revenir. Mais ça, il faut se les rappeler, ces promesses-là. Jésus l'a dit qu'il reviendrait, il va nous préparer une place, mais il va revenir nous chercher. Et ça, de saisir ces promesses-là, l'espérance de son retour, ça va nous aider, justement, à cheminer. Et il y a un troisième volet que je fais rapidement, l'encouragement reçu des autres. Le Seigneur vous a placé, mes frères, mes sœurs, dans une église locale, dans une assemblée locale. Il nous a placé dans une famille. Et quelqu'un a dit que l'église était comme un corps vivant et dans lequel les membres doivent être solidaires et non solitaires. C'est avoir cet esprit de famille-là qui va faire qu'on va être capable de pouvoir vraiment s'entraider au travers de ça et de se soutenir vraiment mutuellement. Comment on va s'encourager les uns les autres? En étant sensible aux besoins des autres. Job va dire, celui qui souffre a droit à la bienveillance d'un ami. Wow! Celui qui souffre a droit à la bienveillance d'un ami. Donc, il faut être sensible aux besoins des autres. En écoutant plutôt qu'en parlant, ça c'est difficile. Surtout quand la personne nous compte comment elle va, puis ça va mal et tout ça, puis que tu aurais des fois à venir. Voyons, d'ailleurs, embrasse-toi! Mais non, c'est pas ça. En écoutant plutôt qu'en parlant. Quelqu'un a dit, si aimer Dieu, c'est écouter sa parole, bien aimer son prochain, c'est savoir l'écouter. C'est aussi simple que ça. Pour être sensible vraiment, puis comprendre un peu plus sa souffrance. En priant pour les autres. C'est triste de voir, puis on ne veut pas juger parce que des fois, les gens, tu vas leur dire ça, ils vont dire, bien, prie pas. Ça ne vaut pas la peine, mais il me semble que Dieu ne répond plus. Est-ce que ça doit vous empêcher de prier pour? Du tout. Continuez à prier. Continuez à prier pour nos frères, nos sœurs qui souffrent, qui ont des grandes périodes de découragement. Quand Spurgeon a été très, très malade à quelques reprises, par la suite, il a écrit dans un pamphlet, justement, pour remercier les gens. Écoutez bien ce qu'il a dit. Spurgeon, il dit, « Savoir qu'au moment d'éclaircie, qui semblait devoir être les instants suprêmes, que des amis connus et inconnus passaient des nuits à prier, que des églises en très grand nombre faisaient de ma santé un sujet spécial d'intercession, a été pour moi une source de force et de repos. Lorsque tout semblait fini, songeant à ces prières, je me disais que je ne mourrais pas et je déclarais encore les œuvres de l'Éternel. » Spurgeon a réalisé à quel point ça a été important d'avoir des gens qui priaient. Epaphras nous est présenté dans la parole comme étant quelqu'un qui combattait dans les prières. Donc, prions, mes frères et sœurs. Et sachons aussi consoler. Dieu est le Dieu de toute consolation, puis il nous a consolés. Pourquoi? Pour qu'on puisse consoler. Et Spurgeon lui-même a dit plus d'une centaine de fois, j'ai pu donner une prise secourable à mes frères et sœurs dans la même condition, parce que je suis moi-même passé par le profond découragement. Être capable de consoler, quand on est quelqu'un qui a passé par des périodes difficiles, c'est les personnes souvent les plus appropriées pour nous aider. Parce qu'eux peuvent dire, je te comprends. Parce que quand on veut consoler, il faut faire attention pour ne pas être un mauvais conseiller. Vous savez que Job en a eu des conseillers qui étaient assez ordinaires, merci. Il faut faire attention pour ne pas être une mitraillette à verset. Parce qu'avec une mitraillette, on peut faire du mal. La parole de Dieu est la vérité, mais il faut savoir manier la vérité de la bonne manière. Et si on n'est pas sûr, on est mieux juste d'écouter, tout simplement. L'encouragement, c'est que Élie a été rétabli. Vous savez, Élie, lorsque Dieu lui a parlé, dans un murmure comme ça, il lui a dit, « Va, reprends ton chemin vers Damas. » Si vous regardez sur une carte, là, Élie parti du nord et descendu au sud pour aller au mont Sinaï. Et quand Dieu lui parle, savez-vous, il lui dit, « Va et retourne à Damas. » Savez-vous, c'est où? Au nord. Tu étais parti du mauvais bord, Élie. Je veux encore t'utiliser. Je veux, dans ma grâce, t'utiliser et que tu puisses faire ce que je veux que tu accomplisses pour moi. Il va aller, Élie, par la suite rencontrer même le roi Akab, mais il va être encouragé, Élie, aussi. Il va être encouragé, Élie, parce que... Il va être encouragé parce que, dans le fond, Dieu va lui dire qu'il va avoir de l'aide. Il va avoir un autre prophète qui va l'aider, qui s'appelle Élisée. Et ça va vraiment l'encourager, Élie, et il va être capable d'aller voir Akab, et il va tellement parler même durement à Akab que Akab va s'humilier devant Dieu. Élie a passé par un profond découragement, mais Dieu est capable encore de l'utiliser par la suite pour accomplir son œuvre avec son serviteur. Et la fin d'Élie, une fin qui est heureuse. Deux rois 2:11 nous dit que Élisée et Élie marchaient ensemble, et voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Quelle fin heureuse! Nous, peut-être que le Seigneur va être revenu, c'est ce qu'on souhaite, mais sinon, rappelons-nous qu'Élie a eu cette fin-là qui est heureuse, et que, dans le fond, il y a de l'espoir. Et en conclusion, ce que j'aimerais faire, c'est justement vous dire, et je pense beaucoup aux gens qui écoutent maintenant par Internet, là, qu'il y en a un espoir. Ah, les hommes ont des solutions qui ne sont pas toujours mauvaises, mais ne mettons jamais de côté l'espoir que Dieu seul peut donner. Et un des versets qui est le plus souvent cité dans l'évangélisation, il dit, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est vrai lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, parce que le Seigneur, lui, a connu la solitude pour pas que vous le connaissiez. Lui, sur la croix, le Seigneur a subi ce qu'il y avait de pire comme angoisse en donnant sa vie pour vous et pour moi. Et l'invitation qu'il vous donne, vous êtes fatigué, vous êtes chargé, c'est d'aller à lui. Et pour nous qui le connaissons, c'est d'aller à lui aussi. De savoir vraiment se jeter dans ses bras d'amour et de réaliser que jamais, il va nous laisser seuls. Je m'excuse pour avoir dépassé le temps. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, loin de moi l'idée de vouloir juger qui que ce soit. Et Seigneur, quand on regarde dans ta parole des pareils hommes que tu as utilisés, des hommes qui ont eu leur force, leur faiblesse, qui ont été découragés, mais que tu as su réconforter, consoler, utiliser à nouveau, on veut te dire merci Seigneur pour cela. Et Seigneur, on n'est pas tous des Élie, on n'est pas tous des Spurgeon et ainsi de suite. Mais Seigneur, on a tous des périodes plus difficiles. Et toi, tu connais l'état de nos cœurs respectifs. Et Seigneur, on veut ce matin te dire merci de ce que tu es toujours un papa qui nous aime et qui veut prendre soin de ses enfants. Et Seigneur, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore comme leur père et comme leur sauveur personnel, on te prie que tu puisses te révéler par ton esprit à eux. Que ton esprit puisse démontrer vraiment tout l'amour que tu as eu à la croix en Jésus-Christ, qui lui a porté la colère que nous, on aurait méritée. Et que tu puisses nous donner de saisir cette espérance que nous avons de t'appartenir et de nous savoir maintenant pour l'éternité auprès de toi. Et que tu nous accompagnes jour après jour ici-bas dans notre pèlerinage sur la terre. Donc, sois béni, Seigneur, pour tout cela, dans le beau et précieux nom de ton Fils. Amen.